Libre-échange avec Tammy Rolfi.
Ravi de vous retrouver comme chaque semaine et mon invité aujourd'hui est une dame. On va parler d'un secteur qui emploie beaucoup de gens et pour lequel le Maroc porte beaucoup d'espoir. Je vais commencer par accueillir ma collègue de la Vie Éco qui a fait le déplacement. Oui, Amatros, merci beaucoup d'avoir traversé la ville pour être à son travail. Pour ceux qui n'habitent pas Casablanca, c'est toujours un plaisir d'être dans les embouteillages et de pouvoir arriver d'une partie de la ville à l'autre partie de la ville. Mais c'est un plaisir aussi d'interviewer des dirigeants d'entreprise pour permettre de comprendre ce qui se passe dans leur actualité et dans celle de leur secteur.
L'invité de la semaine.
Donc notre invité est une dame, c'est le directeur général ou la directrice générale de la MIT, Fatem Zahra Alaoui. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je rappelle que la MIT, c'est l'association marocaine d'industrie textile de l'habillement. Vous dirigez cette association. Alors peut-être juste en quelques chiffres aujourd'hui, il y a combien d'entreprises qui sont globalement identifiées dans le secteur du textile par l'État ?
Alors aujourd'hui, on parle d'à peu près 1600 entreprises opérant dans l'industrie du textile et de l'habillement.
Et combien sont membres de la MIT ?
Un tiers, donc 600 entreprises sont membres de la MIT.
Et combien parmi ces... Et que représentent ces 600 entreprises membres de la MIT en termes d'emploi global dans le secteur du textile ?
Alors aujourd'hui, nos 600 entreprises représentent un peu plus de 75% des emplois du secteur.
Et on estime quoi ? 200 000 emplois à peu près ?
Un peu moins, un peu moins aujourd'hui, ouais.
Dans ce qu'on estime comme emploi, il n'y a évidemment pas toute la partie souterraine, c'est-à-dire toute la partie qui travaille, on ne sait pas où, enfin où peut-être que certaines autorités savent, mais qui n'est pas identifiée comme des entreprises structurées, organisées, mais qui fournissent une partie du marché. Et on le sait, même certains de nos produits ou de ces produits de ces sous-sols sont peut-être considérés comme des produits d'importation alors qu'ils sont faits dans quelques sous-sols casablancais. Ce n'est pas pour ça qu'on vous a invité. On vous a invité pour parler du textile marocain et ses chocs face au monde et face à l'international. L'État a annoncé qu'il engageait une renégociation. On a vu le ministre de l'Industrie monter au créneau. Une renégociation des accords de libre-échange avec la Turquie en particulier. J'aimerais peut-être pour commencer pour vous demander quelle est la position de la MIT sur ce sujet qui est très sensible.
Alors aujourd'hui, la position de la MIT, je pense que tout le monde la connaît. Nous sommes favorables à une renégociation de cet accord. La MIT fait probablement partie des premières associations qui sont montées au créneau il y a déjà quelques années de cela pour demander une renégociation de cet accord. Donc aujourd'hui, nous soutenons et nous sommes favorables à cette renégociation.
Vous pensez que c'est quelque chose qui peut aider à développer ou à sauver une partie de votre secteur ?
En fait, les deux. Déjà sauver dans le sens où nous avons enregistré énormément de pertes d'emplois sur les dernières années en raison en partie de cet accord de libre-échange avec la Turquie, mais également développer. Nous voyons ça comme une opportunité aujourd'hui pour mettre en place les mécanismes nécessaires pour encourager la création et le développement de marques nationales sur le marché local.
On va parler de ces marques nationales et comment on peut les développer, mais pour des auditrices et auditeurs d'Assouat qui nous écoutent, essayons de leur faire partager la compréhension de la situation. De quoi se plaint le secteur textile marocain concrètement, des entreprises turques ou des marques turques compte tenu du fait que nous avons un accord de libre-échange? Ça veut dire que le produit marocain peut aller en Turquie, le produit turc peut venir au Maroc sans droit de douane.
Alors, de quoi nous plaignons? Déjà, dans un premier temps, il faut revenir à l'origine de cet accord de libre-échange et pourquoi cet accord de libre-échange a été signé, notamment sur le volet textile. L'objectif était d'encourager les flux commerciaux entre les deux pays. Donc, que l'on soit en mesure, nous, textiliens marocains, d'exporter davantage sur le marché turc et vice-versa, ça permettait d'ouvrir le marché marocain aux produits turcs, notamment pour élargir la palette d'offres de produits qui étaient mises à la disposition du consommateur marocain. Mmh. Aujourd'hui, un autre volet important qu'on nous attendions de cet accord, c'était l'encouragement des investissements turcs au Maroc, notamment dans un maillon de la chaîne de valeur textile qui est aujourd'hui insuffisant, qui est celui de l'amont textile. Tout à fait. Et aujourd'hui, quand on fait le bilan après 14 ans maintenant de mise en œuvre de cet accord, on se rend compte que finalement, c'est un accord qui n'a bénéficié qu'à une seule partie, qui est la partie turque, qui a profité de cet accord pour inonder le marché de produits en provenance de Turquie. quand nous, en tant que textiliens marocains, nous trouvons énormément de difficultés à exporter et à pénétrer le marché.
Qu'est-ce qui vous empêche d'inonder le marché turc de produits marocains ?
Vous savez, aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est un peu un secret de polichinelle. Il n'y a pas probablement... La Turquie est reconnue comme étant l'un des pays les plus protectionnistes, avec des barrières non tarifaires reconnues de tous.
Je me souviens avoir fait une chronique il y a un certain nombre d'années sur Aswat, rappelant qu'un conteneur a attendu quelques mois sur les quais turc, ouais. et qu'ensuite il a été ouvert pour compter foulard par foulard avant de laisser rentrer. C'était la petite. Alors oui, Amar Khos, la vie est con.
Oui, il y a eu une inondation des marques turques au Maroc, des importations massives. Aujourd'hui, on est sur un marché local qui est à 70% capté par l'importation. Quel est votre plan d'action pour revenir sur le marché local à travers des marques marocaines?
Alors, vous avez une partie de la réponse dans la question. Le plan d'action consiste effectivement à accompagner l'émergence et le développement de marques nationales, de marques marocaines sur le marché local. Donc, la stratégie, elle est en cours d'élaboration avec le ministère. Elle va inclure beaucoup de volets, que ce soit un volet accompagnement industriel, mais également un volet communication et promotion de la marque Maroc pour sensibiliser le consommateur marocain et l'encourager à consommer marocain.
Oui.
Donc il y a plusieurs volets de cette stratégie qui sont en train d'être élaborés et discutés avec le ministère justement pour permettre à nos marques marocaines d'émerger dans un environnement qui soit de concurrence saine, on va dire.
Je rappelle que vous êtes la directrice générale de la MIT et vous êtes notre invitée dans Libre-Échange sur Aswat. Vous nous dites qu'un des leviers qu'il faudrait actionner pour faire face, alors aujourd'hui aux Turcs, demain peut-être d'autres, hein. Nous avons d'autres accords de libre-échange. Ce que vous ne nous dites pas dans vos propos, c'est que les Turcs sont reconnus par les Marocains comme étant des entreprises soutenues par leur État de manière cachée, de sorte à ce qu'ils puissent développer leur offensive sur le marché marocain. Alors, comment cela se produit ?
Alors, concrètement, aujourd'hui, la Turquie a notamment, par exemple, un programme qui s'appelle Turquality. C'est un programme qui vise effectivement à soutenir l'émergence des marques turques et à accompagner leur développement à l'international. Mmh. Ce programme qui est visible, public et affiché, déjà à lui seul, apporte des subventions à hauteur de 50% sur les principales charges d'exploitation liées au développement d'un réseau à l'international.
Du genre,
l'État turc subventionne 50% du loyer des point de vente que vous voyez au Maroc.
À chaque fois qu'il y a un point de vente ouvert au Maroc...
50% de son loyer est payé par l'État turc.
D'accord, ça va faire une flambée des loyers pour ceux qui nous écoutent et qui louent des locaux à des entreprises turques.
C'est exactement ce qui se passe parce que, vu la flambée des loyers liée à ça, c'est déjà une barrière à l'entrée pour nos marques marocaines, ouais, qui, elles, ne bénéficient pas de subventions sur le loyer.
De quel autre type de subvention bénéficient-ils ? Pardon, William, je vous laisse la parole.
Ils bénéficient aussi de subventions sur les charges marketing. Donc, tous les 4x3 et tous les panneaux publicitaires de marques turques que vous voyez à travers les villes du Maroc sont financés à 50% par l'État turc. Ils vont subventionner le coût des ressources créatives. Ils vont subventionner le coût des salariés dans les magasins. Ils vont subventionner toutes sortes de charges d'exploitation liées au développement du réseau commercial.
L'intérêt pour les Turcs, c'est de soutenir l'emploi en Turquie. Oui.
Ben, je crois que les industriels marocains qui ont des marques locales qui nous écoutent rêveraient d'avoir un programme
tout à
pareil
fait
au Maroc. Est-ce que c'est possible ?
Écoutez, aujourd'hui, tout est possible. Nous sommes en train de discuter avec le ministère de l'Industrie, justement, pour mettre en place un programme d'appui qui permette à nos marques d'émerger dans des conditions favorables. Alors, est-ce qu'on va arriver au niveau des Turcs ? On ne sait pas. Après,
alors, il y a une question que je voudrais vous poser très directement qui concerne les membres de la MIT. Parce qu'avoir envie de créer des marques marocaines, c'est une chose, c'est une volonté de l'État, on a compris que c'est un levier qu'il faut utiliser, mais est-ce que les chefs d'entreprise sont dans le textile, se projettent là-dedans ? Est-ce qu'ils ont envie de créer des marques, de développer sur le marché marocain, de développer à l'international ? Parce qu'ils ne l'ont pas fait, ou très peu l'ont fait depuis une vingtaine d'années. Et je me pose la question, est-ce qu'ils en ont vraiment envie ? Est-ce que ça fait partie de leur culture ?
Alors écoutez, il existe des marques marocaines aujourd'hui qu'on connaît. Je pense qu'on peut en citer quelques-unes. Nous avons Marwa, nous avons Anae, nous avons
Diamantine,
nous avons Flouflou. Il y a des marques marocaines. Oui. Donc la volonté est là. Maintenant, ce qu'il faut savoir, vous parliez de marques à l'international, ce qu'il faut savoir, c'est que les marques turques notamment, avant de se développer à l'international, elles se sont développées sur leur marché local.
Bien sûr, c'est évident. Oui, sûr. Et c'est dans ce sens que je pose la question. Est-ce que les industriels marocains ont envie de se comporter en commerçant qui gère des réseaux de retail, de détail, c'est un métier en soi. Est-ce qu'ils se projettent là-dedans ?
Ils se projettent là-dedans. Moi, quand je parle avec mes membres, beaucoup se projettent là-dedans, mais ils posent une condition essentielle qui est les conditions de marché au niveau du marché local. Mmh. Mmh. Quand on a un marché qui est envahi par les importations, il est très difficile de réussir sa marque et de rentabiliser sa marque dans les conditions actuelles du marché.
Et pourtant, d'autres Marocains le font.
Ils souffrent.
Ils souffrent.
Ils souffrent beaucoup.
Ok. Quel autre type de contre-attaque on peut imaginer aujourd'hui face à l'hégémonie turque dans le secteur du textile au Maroc ?
Quel type de contre-attaque en dehors de la renégociation de l'accord ?
Ou dans le cadre de la renégociation, ou dans la mobilisation des troupes de la MIT ?
Alors aujourd'hui, quand on parle de la renégociation de l'accord, concrètement, qu'est-ce que demande la MIT ? Nous demandons le maintien de ce qu'on appelle une liste négative, c'est-à-dire des produits qu'on exclut du champ ou du périmètre de l'accord de libre-échange.
Qui sont ?
Ce qu'on appelle, nous, le produit fini. Donc, ce sont les produits finis d'habillement et le textile de maison. Les tissus d'ameublement, les tapis et les couvertures, notamment. Donc, juste pour rappel, il y a 2 ans déjà, nous avons exclu ces produits du périmètre de l'accord de libre-échange. C'est une mesure qui expire fin 2021. Ce que nous demandons, c'est que cette mesure soit prolongée au-delà de cette date, justement pour maintenir la protection sur ce segment de la production marocaine. Dans un deuxième temps, et pour rééquilibrer un petit peu les forces en présence, nous demandons, et ça c'est plutôt dans le cadre de la stratégie commerce globale, que les pouvoirs publics marocains imposent une obligation de sourcing local à toutes les enseignes étrangères qui se développent de manière importante sur le marché marocain. Alors, on peut citer l'exemple aujourd'hui, par exemple, des marques espagnoles qui ont aussi des réseaux très développés. Oui. Maintenant, il est important de rappeler que ces mêmes marques espagnoles créent énormément d'emplois au Maroc. Aujourd'hui, un seul acteur représente un peu plus de 70 000 emplois au Maroc.
Oui, mais ce n'est pas parce qu'il développe son retail au Maroc qu'il crée de l'emploi. C'est parce qu'il a trouvé son bonheur dans l'industrie au Maroc, mais parce que son retail au Maroc représente très peu dans le monde.
Tout à fait. Mais maintenant, c'est un partenariat win-win pour les deux parties.
Mais si demain, il trouve plus son compte sur la partie industrielle, vous pensez qu'il va réfléchir longtemps et il partirait ?
Ça me semble difficile qu'il ne trouve plus son compte. Oui, nous avons quand même des atouts.
Oui, la position géographique notamment. On a parlé d'investissement. Est-ce que les Turcs aujourd'hui sont prêts à investir ? Il y a eu déjà un investissement dans l'amont qui est effectif. Qu'en est-il du reste ?
Alors, on a beaucoup parlé de l'investissement effectivement turc qui s'est fait au Maroc. C'est un investissement sur quand même près de 14 ans, ce qui n'est pas énorme. Oui. Les investisseurs turcs sont venus en nombre au Maroc pour nous dire qu'ils souhaitaient investir. Nous les avons reçus, le ministère les a reçus. Nous leur avons fait visiter plusieurs entreprises. Nous leur avons expliqué les potentialités du marché marocain. Et au final, la discussion s'est résumée à combien de subventions l'État marocain était prêt à mettre sur la table pour les encourager à venir investir au Maroc.
Ah,
et quand le montant mis sur la table n'était pas à la hauteur de leurs espérances, ils sont partis, ne sont jamais revenus. Par contre, on a pu voir qu'ils ont investi des sommes colossales, notamment chez les voisins. Ce qui nous amène à nous poser des questions réellement sur qu'est-ce qu'ils attendent du partenariat avec le Maroc.
Quand vous dites chez les voisins, c'est qui ? C'est l'Espagne, l'Algérie ou la Mauritanie ?
C'est l'Algérie.
En Algérie, ok ?
Les investissements.
Ils ont investi des milliards de dollars dans des investissements en Algérie pour développer notamment des unités de denim en Turquie, en Algérie, pardon, en partenariat avec l'État algérien. Donc,
peut-être qu'ils ont eu de meilleures subventions.
Oui, oui, bien sûr, mais évidemment, mais derrière, n'oubliez pas qu'il y a une logique de marché et de modèle économique. Peut-être qu'ils trouvent dans cette partie de l'amont leur bonheur, mais que pour nous, c'est peut-être une mauvaise affaire. Vaut mieux ne pas la faire. Hein? J'aimerais, avant qu'on conclue, oui, Marcos, toute dernière question, vous en avez une ?
Non.
Allez, moi, j'ai une toute dernière question, très très brève, en imaginant que demain les accords sont déjà négocié, qu'on est dans une relation meilleure avec la Turquie. Et comment est-ce qu'au niveau de l'AMIT, vous allez, qu'est-ce que vous allez faire ? Comment vous allez encadrer les entreprises pour qu'elles soient un peu plus agressives sur le marché international ? Et en particulier sur le marché turc, il y a quand même 100 millions de consommateurs.
Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place. Il y a beaucoup de discussions avec les pouvoirs publics parce qu'il s'agit également de mesures d'accompagnement qui améliorent la compétitivité, vu qu'aujourd'hui, c'est la règle partout. Mmh. Quand on voit la compétitivité des secteurs textiles concurrents, c'est une compétitivité qui est énormément liée aux subventions et au soutien des pouvoirs publics. Donc aujourd'hui, nous travaillons, comme j'ai dit tout à l'heure, avec le ministère pour mettre en place un dispositif qui encouragerait la création de marques marocaines sur le marché local, mais nous travaillons également sur tous les dispositifs de promotion et d'accompagnement de nos entreprises pour les rendre aussi plus compétitives à l'export.
Le mot de la fin.
Je vous laisse, Fatem Zahra Alaoui, directrice générale d'AMIT, le mot de la conclusion. Est-ce que vous avez de l'espoir pour le secteur une fois ces négociations finies ?
C'est plus que de l'espoir, c'est une certitude. Aujourd'hui, le potentiel de croissance du secteur textile marocain est énorme, que ce soit sur le marché local ou à l'export. Donc une fois que ces négociations seront terminées, nous sommes déjà mis au travail justement pour pouvoir exploiter ce potentiel que ça va créer et pouvoir améliorer le rapport qualité-prix de l'offre marocaine mise à la disposition du consommateur marocain.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On suivra évidemment ce qui se passe dans votre secteur. C'est un secteur qui est important dans notre pays et depuis des décennies. Et évidemment, n'imaginons pas un Maroc sans textile. Le Maroc a encore dans l'industrie, et le textile en particulier, de beaux jours devant lui. À la semaine prochaine, même heure, même endroit. Vous savez que j'aurai plaisir à vous retrouver mardi prochain sur Aswat.